Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons la famille Jacques qui vient des États-Unis. On les applaudit. Vous êtes des gens formidables. On vous aime beaucoup.
Merci.
Je vais parler un peu plus lentement que d'habitude parce que nous avons un frère qui va traduire à mesure ce que je vais dire, donc je vais parler un peu plus lentement, ce qui va vous permettre de prendre des notes. Voilà, on va faire une première lecture dans le psaume 139 au verset 1, s'il vous plaît. Jésus, je te prie de bénir ta parole, qu'elle fasse du bien à nos cœurs, qu'elle nous réconforte, qu'elle nous rassure et que nous puissions mettre toute notre confiance en toi et rien qu'en toi, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Éternel, c'est David, hein. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car ta parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte vers les cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Ouais.
Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'émerveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen.
Amen.
Ah, écoute, David dit, je les hais d'une parfaite haine. Oh. Non, simplement, je les hais pas, mais je les déteste. Non, c'est pas. Je les hais pas, mais bon, je les évite. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Dieu sait tout. Il sait quand tu te lèves, il sait quand tu t'assieds, verset 2. Et depuis quand est-ce qu'il sait ça? Eh bien, quand j'étais une masse informe, est-ce que je vais y arriver? Tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie, toute ma destinée, avant qu'aucun d'eux n'existât. Verset 16. Dieu sait quand je me couche. Verset 3. Alors je vais croire qui? La Bible? Je crois la Bible et personne d'autre. Je me souviens que Raphaël, l'homme qui m'a emmené à Dieu, le pasteur gitan, voulait aller en Belgique. Il avait fait des tracts, il avait loué des salles, et Dieu dans la nuit lui a parlé et lui a dit non, va en Suisse. Parce que là-bas j'y ai un peuple nombreux. C'est dans la page 20 de mon livre Oracle. Je raconte ça. Dieu savait que j'irais voir Raphaël dans sa réunion. Il fallait vraiment beaucoup de circonstances pour que ça arrive. Il a fallu que mon ami Daniel Siegenthal écoute la radio à l'heure où il fallait, où Raphaël passait, etc. Et ensuite il est venu me le dire et puis on a pris la décision. Dieu savait que j'irais. Et de mon ministère est sorti un peu plus nombreux, des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans plus de 70 pays, sauvées, guéries miraculeusement. Dieu savait. Un jour, un autre jour, Raphaël voulait partir à Fréjus pour faire des réunions là-bas. Et il est parti avec toute une bande de caravanes parce qu'il était le pasteur. Et chez les gens, c'est comme ça. Le pasteur part et il y a toute une bande de fidèles qui le suivent. Ils sont arrivés à Fréjus et ils se sont mis sur une espèce de parking qui était là, le long de la voie ferrée. Dieu savait que le barrage de Fréjus allait péter. Le 2 décembre 1959. Dieu savait. Alors Dieu, dans la nuit du 1er décembre 1959, il a parlé à Raphaël et il lui a dit de partir. Il ne lui a pas dit le barrage va péter. Il lui a dit attelle la caravane et pars. Alors, il l'a fait et tous les autres ont dit mais pourquoi tu pars ? Il dit, faites ce que vous voulez, moi je m'en vais. Et tous les autres ont dit, si le serviteur de Dieu s'en va, on s'en va aussi. Mais quelques-uns ont contesté, mais on a distribué des tracts, on a loué une salle, je m'en vais. Et ils sont tous partis. Et le 2 février, le barrage a explosé. Raphaël avait écouté Dieu. Tout le camp a été sauvé. 48 millions de mètres cubes d'eau et de boue ont tout dévasté. 423 personnes sont mortes là. Les rails de chemin de fer où était parqué Raphaël, j'ai vu les photos, c'était tordu comme des tire-bouchons. Ils seraient tous morts. Mais Raphaël savait écouter Dieu. Il n'écoutait pas n'importe qui. Il n'était pas soucieux de savoir ce que les ingénieurs, ces grands scientifiques merveilleux, disaient au sujet de leur barrage. Il ne s'inquiétait pas non plus des infos de la télévision qui disaient qu'il y aurait des pluies très fortes. Il ne s'inquiétait pas non plus. D'abord, il n'y avait pas Internet, donc il n'a pas pu se renseigner sur Internet. Wikipédia affirme que cette catastrophe est une des plus grandes catastrophes civiles françaises du XXe siècle. Pourquoi Dieu n'a pas averti les incroyants de Fréjus? Ben parce qu'ils étaient occupés à d'autres choses. Ils intéressaient à des tas de futilités, ils s'intéressaient aussi à leur travail, et puis voilà, puis c'était le week-end, ils allaient guincher. Hein. Dieu sait quand je me couche, quand je me lève, quand je m'assieds. Et il le sait depuis, dès avant la fondation du monde. C'est pas pour rien que dans la Bible, on trouve 365 fois Dieu qui dit « Ne crains pas mon peuple, ne crains pas, je sais tout, je t'avertis à la mesure. » À qui Dieu dit-il « Ne crains pas » aux croyants, à ceux qui l'écoutent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille dire aux incroyants? Ils ne croiraient pas. Puis il connaît leur cœur. Il sait très bien que ça ne sert à rien de leur parler. Ils aiment le mensonge. Ah, alors là, le mensonge, ils adorent ça. Les apparitions de machins, les machines et tout ça, alors là, ils courent. Mais quand c'est Dieu qui parle, non. Dieu connaît tout. Il sait tout. Et il cherche à nous avertir. Un jour, au château, là où nous habitions, avec toute la communauté, à Lamblore, j'ai invité une sœur chrétienne du nom de Liliane Auzer, qui est toujours une amie. Une de mes rares amies, à part les frères et sœurs de la communauté, Charef et son épouse. Elle s'est assise dans la salle à manger et elle m'a montré un type, Richie. Elle m'a dit, regarde celui-là, il va te trahir très bientôt. Et puis il n'y a pas que lui. Elle m'a montré tous ceux qui se joindraient à cet homme-là qui allait me trahir. Elle ne s'est pas trompée. Hein. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Parce que Dieu sait tout. Et il parle à ceux qui savent écouter. Moi, je ne pouvais pas entendre une chose pareille. Si Dieu me l'avait dit, je n'aurais pas cru. Parce que j'aimais mes frères et sœurs. Alors, il s'est servi d'une autre personne pour me le dire. Une personne en qui j'ai confiance. La Bible nous dit que Dieu a un livre qui me concerne. Ce livre, c'est le livre de mes jours, où sont inscrits tous les jours de ma destinée. Ce livre sera ouvert au jour du jugement, dans Apocalypse 20, verset 12. Nous avons tous un livre qui parle de notre vie. Vous avez un livre. Dieu a un livre où sont inscrits tous les jours de votre destinée. Quand j'ai été trahi par le frère que Liliane m'a désigné, Michou et moi, on est descendus dans le Lot parce qu'on était invités par un ami qui voulait nous faire visiter sa nouvelle maison. Et là, j'ai su qu'il fallait qu'on déménage dans le Lot. J'ai pas entendu une grosse voix qui me disait « Déménage dans le Lot ». Non, mais j'ai su. Et aujourd'hui, ben, on y vit. Et ça fait 8 ans maintenant, je crois, qu'on vit dans le Lot. J'étais là, j'aurais très bien pu mettre mon casque, écouter Sylvie Vartan. J'étais là, j'aurais pu aussi regarder la télé, parce que mon ami avait la télé. J'aurais pu aussi avoir, j'avais internet sur mon téléphone, j'aurais pu aussi passer mon temps là-dessus. Non, j'ai écouté Dieu me parler. Car je sais que Dieu sait. Il a sa main sur moi, me dit le verset 5 qu'on a lu tout à l'heure. La main de Dieu est-elle sur vous? L'avez-vous invité à vous protéger, à avoir sa main sur vous? Ou est-ce que c'est la main de Hanouna ou de Macron? Ou de, je sais pas moi, les influenceurs politiques ou financiers, c'est qui? C'est la main de qui est sur votre tête? Dieu sait tout, et voilà ce qu'il dit. Dans le psaume 37, 1, 6, c'est le numéro 2. 37, 1, 6, je dis ça pour nos amis américains parce que je leur ai filé une Bible en anglais, ils peuvent lire aussi. 37, 1, 6. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils flétrissent comme le gazon. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, pour nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dieu sait quand tu te lèves. Et quand tu te lèves, est-ce qu'il te voit prier? Est-ce qu'il te voit remettre ton sort entre ses mains? Est-ce qu'il voit que tu as foi en lui? Est-ce qu'il voit que tu fais de lui tous tes délices ou simplement tu dis, bon, je me lève et je te bouscule, je bois mon café comme d'habitude. Est-ce qu'il te voit chaque jour en train de remettre ton sort entre ses mains? Est-ce qu'il voit que tu mets en lui ta confiance? Dieu agit dans ma vie parce que je fais des choix. Est-ce que tu fais des choix? Si tu ne les fais pas, c'est parce que tu fais autre chose. On peut pas, la nature a horreur du vide. Si tu ne fais pas le choix de te lever, de remettre ton sort entre les mains de l'Éternel, de lui faire confiance, si tu ne le pries pas, c'est parce que tu fais autre chose, des choses très intéressantes, certaines, bon, passionnantes. Hein. Quel dommage. Mais est-ce que tu y peux quelque chose, au fait? C'est la question, ça. Est-ce que tu y peux quelque chose? Puisque tout est écrit dans le livre qui concerne ta vie. Ben oui, tu y peux quelque chose. Parce que je t'ai parlé. Parce que tu m'as entendu. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu peux choisir de faire ou pas ce que je t'ai dit. C'est à ça que ça sert les serviteurs de Dieu. Maintenant, si tu ne fais pas ce que je te dis, ben tu montres quel est ton cœur. C'est tout. Et si tu fais ce que je te dis, tu montres aussi ce qu'est ton cœur. Mais est-ce que j'ai le choix vraiment? Dieu te donne le choix. Il t'a donné le libre arbitre pour choisir la vie ou la mort. Deutéronome 30, verset 19-20. On peut le lire là. Deutéronome 30, 19-20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité aussi, elle est concernée. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. On parle même de prolonger les jours. Tu donnes le libre arbitre de choisir. Si tu choisis, il peut même prolonger tes jours. Dieu sait ce que tu vas choisir. Ça, il le sait. Et toi, est-ce que tu sais ce que tu vas choisir? Oui, tu le sais. Tu sais ce que tu vas choisir. Tu sais très bien. Tu as décidé. Et tu restes sur ta décision. Eh bien, reste-y. Tu sais ce que tu vas choisir. Pour ma part, je refuse de croire que cette parole de Dieu est une menace. Je refuse de voir dans cette parole de Dieu une sorte de dernier avertissement avant que Dieu nous abandonne. Dieu ne pose pas d'ultimatum à des personnes qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, tu as déjà choisi. Si tu n'as pas encore choisi de vraiment faire tout ce qu'il dit, choisis de le faire. Tu montreras comme ça ton cœur, s'il est bon ou s'il n'est pas bon, s'il y a de la foi dedans ou pas. Vous vous rappelez de 2 Chroniques 20-20 ? Je ne sais pas si vous vous rappelez de 2 Chroniques 20-20, je ne sais pas si je vais le trouver, parce que je ne l'ai pas noté, mais il me revient à la pensée. 2 Chroniques 20-20. Voilà. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confie-toi en Dieu, tu seras ferme. Et confie-toi dans ses serviteurs et tu réussiras. Ne te confie pas en Dieu et tu seras... Bon. Ne te confie pas dans ses serviteurs et tu ne réussiras pas. C'est toi qui choisis. Dieu n'a pas envoyé ses serviteurs pour te faire rigoler, pour te faire passer le temps ou pour te prendre ton pognon. Bon, regardez Jésus. Jésus, ben, il aurait très bien pu rester tranquillement charpentier dans son petit coin. Mais quand il a choisi de s'impliquer, d'impliquer son existence, en prenant à bras le corps sa vocation de prédicateur itinérant, il a choisi la vie qui l'amena à la mort. Vous me direz. Il a choisi la bénédiction. Il a choisi d'avoir la bénédiction de Dieu sur lui. Et il a tout fait pour être une bénédiction pour les autres. Parce que quand on choisit pour soi, ça fait du bien aux autres. Il a choisi la vie parce que le mal existe, il le savait. Choisir la vie, c'est montrer son bon cœur, sa bonne volonté. Paix aux hommes de bonne volonté. N'oublions pas les femmes, paix aux femmes de bonne volonté. Et pour les autres, ça veut dire quoi? Ben exactement le contraire. Ça montre ta fidélité. Jésus a montré sa fidélité, il a choisi la vie, c'est une bienveillance sur ce qui existe de bon. Il a fait le pas décisif pour aller dans la direction de son Père. Choisir la vie, ça ne nous met pas à l'abri de l'usure. J'ai 75 ans, voilà. Je suis plus comme j'étais quand j'avais 20 ans, c'est sûr, l'usure, normal. Quand on choisit la vie, ça ne nous met pas à l'abri de la fatigue, ni de la dépression d'ailleurs. Ça ne nous met pas à l'abri de la maladie, du dénuement, des inquiétudes. Regardez la vie des apôtres, regardez la vie de milliers de chrétiens qui sont encore torturés par ce monde de fanatiques. Ça ne nous met pas à l'abri. Choisir la vie ne nous met pas à l'abri des trahisons, de la colère, de nos 1000 défauts des nôtres et puis de ceux des autres. Choisir la vie, c'est être une splendeur ici-bas, c'est tout. Une splendeur qui glorifie Dieu pour ceux qui savent le reconnaître. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors choisis la vie, choisis la vie. Tu peux le faire. T'as qu'à dire je choisis. Et ensuite, tu fais tout ce que tu trouves qui est écrit. Tu veux pas? J'y peux rien, je t'aurais averti. Comme Dieu nous avertit. Il dit, j'en prends à témoin le ciel et la terre. Choisis la vie. Ou la mort. Choisis. Moi, je choisis de croire à la parole de Dieu. Je crois qu'il me voit quand je me lève, quand je me couche, quand je m'assieds, quand je vais aux toilettes, quand je vais dans mon bureau, quand je vais partout. Il sait tout, il voit tout. Et ça me rassure, ça me fait du bien. Je suis content de ça. Je suis content que Dieu prenne soin de moi. Oh, que je suis quoi, hein? Toi qui es malade, toi qui es souffrant, ne pense pas que Dieu te punit ou des trucs comme ça, c'est faux. Dieu n'envoie pas la maladie pour punir les gens, c'est faux. C'est une doctrine stupide, méchante, cruelle. Dieu n'envoie pas l'abondance qui tombe du ciel comme ça. Vous savez, je vois des faux prophètes africains qui envoient des photos. Alors on voit des camions remplis de dollars et d'euros. Ça déborde de partout, puis les gens viennent se servir. Dieu va te à 11h précises demain matin, la bénédiction t'as localisé, tu auras tout l'argent que tu veux pour pouvoir construire ta maison, tu auras ton visa pour aller. On dit surtout, venez pas en France, merci, on en a déjà suffisamment comme ça qui nous casse les pieds. Pardon ? Mais si vous êtes des crétins à croire des âneries pareilles, pardon, on vous veut pas. Il faut que vous choisissiez de croire Dieu. Dieu dit, je bénis l'œuvre de tes mains, ton travail. Le travail et l'investissement, investissez, ne dépensez pas tout à mesure, investissez, même s'il y a peu, investissez. Ne croyez pas ces prophètes de pacotille, c'est des faux prophètes, la Bible dit qu'il y aura des faux prophètes, et ben ils sont là, hein. Ah, ils vous mettent des maisons, des photos de maisons, mais même à Hollywood, je n'ai pas vu des comme ça. Je sais pas où ils ont été chercher ces baraques. Et puis t'as des bonnes femmes et des bons hommes qui vivent dans des cases pourries, avec même le sol, et puis ils disent « Amen, je reçois, Amen, au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant. » Mais vous prenez Dieu pour un crétin, quoi. Ou vous êtes crétin. Croyez la parole de Dieu. Il n'y a pas de repas gratuit. Il n'y a pas de repas gratuit. Tout se paye. Même le salut de votre âme. Vous dites, ah, j'ai été sauvé par grâce, gratuit. Non, ça n'a pas été gratuit pour Jésus. Jésus l'a payé, le prix. Et tout se paye. Et si vous ne vous donnez pas vous-même pour arriver à quelque chose, vous n'arriverez à rien du tout. Je dis à tous ces gens qui me disent « Amen !» qui disent « Amen, Amen, je crois, je reçois !» Je leur dis « Écrivez-moi quand vous aurez reçu demain matin à 11h. Écrivez-moi. » Il n'y en a pas un seul qui m'écrit, parce que personne ne reçoit rien du tout. Par contre, ils continuent à suivre ces prophètes à la noix. Moi, je comprends plus rien du tout. Je crois que je suis devenu trop vieux. J'en ai marre des gens. Il y a trop d'imbéciles, c'est pas possible. C'est pas possible. Faites le choix de croire ce que Jésus dit. Et vous verrez votre vie devenir une belle vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.